Compromis, la suite de notre programme, est également consacrée à la visite du pape en République tchèque. Une émission spéciale sous la forme d'un entretien réalisé par Alexis Rosenzweig avec le prêtre jésuite Petr Kolář, ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel tchèque et également chevalier de la Légion d'honneur.
Petr Kolář, bonjour. Est-ce qu'on pourrait commencer par peut-être détailler les étapes les plus importantes du pape Benoît XVI au cours de son séjour d'un week-end ou d'un grand week-end en République tchèque, à commencer par le Jezulatko, qui est en français l'enfant Jésus ou le petit Jésus de Prague, je crois.
Alors, il arrive donc samedi vers 11h30, il y a un accueil à l'aéroport, et ensuite il se rendra à Vorchilska, c'est-à-dire le lieu où se trouve l'annonciature, le siège de représentant du Vatican en République tchèque. Et là, il va probablement loger. Moi, j'ai pas lu cette information. On la donne pas officiellement, probablement, mais normalement, il est chez lui là. Comme un ambassadeur peut recevoir les membres du gouvernement, alors le nonce reçoit le pape. Ensuite, l'enfant de Jésus de Prague, c'est déjà un point qui est marquant dans le sens où c'est un objet de piété populaire. C'est une église peut-être la plus visitée de Prague, mais visitée par des gens qui sont souvent pas croyants. C'est je dirais, du folklore religieux. Donc un pape qui se rend dans un lieu comme ça, il manifeste à la fois son attachement à cette piété populaire massive, et surtout il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, mais en même temps il y a une connotation, un petit point d'interrogation, est-ce qu'il n'y aurait pas de lieu symboliquement plus important que l'enfant de Jésus de Prague?
Alors cet enfant Jésus de Prague, est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Pourquoi est-ce que c'est un lieu de piété populaire et pourquoi est-ce qu'il intéresse autant d'étrangers? Et j'en ai vu beaucoup qui venaient d'Amérique latine pour le voir.
Son histoire est relativement simple et pendant assez longtemps, l'enfant de Jésus de Prague, c'est une statue en cire qui est venue de l'Espagne par une noble tchèque qui l'a apportée. Et la particularité, c'était que chez les Carmes, parce que l'église appartient aux Carmes, on commençait, je crois, autour du 1750 ou par là, donner à cette statuette qui est toute petite. On est très surpris quand on la voit, elle n'a pas un demi-mètre, hein. Elle doit avoir 40 centimètres. On lui donnait des vêtements somptueux de la couleur liturgique. À l'époque, il y en avait beaucoup, il y avait le vert, le blanc, le rose, le bleu, le noir, le violet et certaines couleurs encore d'autres. Et alors, les nobles tchèques, pendant la période baroque, qui cultivait ce genre d'image, allez voir une église baroque, vous verrez les petits anges qui sont partout sur le plafond et sur les murs, souvent pas vêtus, comme petits enfants encore à l'âge où ils marchent pas. Donc cette statuette faisait un pendant et un contrepoint, parce que cette statue était habillée vraiment de vêtements non seulement très très beaux, mais aussi de grande valeur. Souvent ça a été brodé en or et en argent avec des perles et les pierres précieuses. Donc c'est là que d'abord la population a été attirée par la beauté de ces vêtements, et de là découle petit à petit le courant presque ininterrompu de visiteurs qui vont voir cette statuette. Elle a, en dehors de cela, elle n'a pas de lien direct à l'évangile ou à la prédication de l'évangile chez nous, à l'évangélisation, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de la piété populaire.
Alors, est-ce qu'on peut continuer et parler des autres étapes du pape lors de ce séjour en République tchèque? Il va ensuite se diriger vers l'est du pays avec plusieurs étapes importantes encore.
Ben, ne faisons pas trop de détails parce que les gens en France ne savent pas les noms des lieux qui sont connus en Tchéquie, les lieux de pèlerinage, Boleslav, etc. Il y a une messe pas loin de l'aéroport de Brno, qui est la deuxième ville du pays et en même temps la capitale historique d'une partie orientale du royaume de Bohême qui était toujours le fief du dauphin. Tant qu'il y avait la famille royale de Premyslit, le fils aîné était, pendant le temps où son papa était à Prague, il était Markgraf, comte de Brno. Et cette partie de la République, aujourd'hui encore, 10 siècles presque plus tard, garde une certaine jalousie pour son importance et pour sa place. Permettez-moi de vous dire une chose importante qui ressort maintenant. Cette ville, pendant la période monarchique, qui durait du 15e jusqu'au début du 20e siècle, donc beaucoup, beaucoup de temps, cette ville vivait en proximité de Vienne, qui est devenue la capitale de la monarchie. Au début c'était Prague, ensuite c'était Vienne, qui est vol d'oiseau, j'ai pas les mesures dans la tête, mais vol d'oiseau ça doit pas faire beaucoup plus que 80-100 kilomètres au maximum. Et il n'y a pas de frontière naturelle, hein. C'est la plaine morave. Donc cette ville a vécu un moment important dans son histoire, surtout au 19e où la Bohème était industrialisée, il y avait des usines, des fabriques à Brno. Et la période communiste qui a construit un mur imperméable entre l'Autriche et la République tchèque a causé beaucoup de dommages à la ville de Brno. Donc elle est dans une période de retrouvailles de son passé et de son importance, et c'est, je pense, pour cela que certaines visites et certaines choses se font à Brno, d'autant plus que la Moravie est beaucoup plus les catholiques moraves sont plus nombreux que les catholiques tchèques, c'est une piété plus populaire, ce n'est pas des intellos qui discutent indéfiniment des problèmes, c'est des gens qui font des pèlerinages, mais c'est un catholicisme vivant, et je pense que le pape pense aussi à cela, à aller faire la visite là où les catholiques effectivement vivent. Il y a pas loin de Brno le fief du catholicisme slave, pas seulement tchèque, Velehrad, où Saint-Cyril et Méthode ont prêché et ont fondé la culture slave en créant l'écriture, la première écriture écrite en slavon à l'époque. Et le premier texte était le prologue de Saint Jean, le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est les premiers mots qui ont été écrits dans cette langue, qui ensuite a donné azbuka russe, l'alphabet ukrainien, serbe, bulgare, etc. Donc il y a des raisons pourquoi pape aille en Moravie. Lui qui est allemand, à la différence des papes italiens, il a, je dirais, des connaissances et des sensibilités plus proches des pays slaves, dans un certain sens au moins, que les papes qui n'étaient pas connaisseurs du lieu, sauf évidemment le dernier, Jean-Paul II. Alors là, ça c'est une autre chose, ça c'est le pape pour les slaves. Mais
et quelle est l'image de ce pape comparée peut-être au précédent? C'est un peu plus difficile puisqu'il n'est pas slave et que Jean-Paul II avait quand même une certaine aura grâce à son combat aussi politique. Vous avez une idée de l'image qu'a Benoît XVI auprès des Tchèques?
Je pense que les Tchèques n'ont pas d'image précise. Le pape polonais, c'était autre chose. D'abord, il est venu dans des moments très importants, et puis on peut le dire avec un petit sourire flatteur, c'était un comédien. Il savait faire avec les foules. C'était un homme médiatique parmi les évêques exceptionnel. Or, Benoît XVI n'est pas ça, hein. C'est un intellectuel, un professeur. Je l'ai connu comme archevêque à Munich, quand j'étais étudiant à Munich il y a maintenant plus de 30 ans. Il n'a pas fait beaucoup il s'est pas fait beaucoup d'amis parmi les clercs à Munich, hein. C'était conflictuel en partie, comme toujours les intellectuels. Ils posent des questions, ils répondent aux questions, les uns sont pour, les uns sont contre. Ce n'est pas comme un pape qui est un tribun de peuple, qui parle un langage qui est acceptable pour tout le monde, c'est le dénominateur commun minimum. Mais c'est comme ça qu'il faut faire avec les foules. Et ça, un pape qui est intellectuel, qui coupe, comme nous tous, moi, mais je me compte aussi tout petit peu dans ce rang, on coupe le cheveu en quatre toujours, on n'est jamais accepté par tout le monde. Donc ça, il ne faut pas attendre une émeute de la foule à cause du pape. Non, ce sera plus sobre.
La visite d'un pape n'est jamais officiellement politique en premier lieu, mais est-ce que cette visite, ce week-end jusqu'à lundi, peut faire avancer les choses? On sait que la République tchèque fait partie de ces derniers États qui n'ont pas conclu de traité avec le Vatican, et que le principal objet de discorde ici entre l'État et l'Église, ce sont ces restitutions.
Je pense que de ce point de vue, il n'y a rien à attendre. Nous sommes dans une situation tellement dramatique et tellement délabrée politiquement que je pense que les hommes qui seraient les partenaires de cette négociation, de notre côté, ont la tête complètement ailleurs. On pourrait même dire que le pays n'a pas le cœur à la fête. Hein. Je ne sais pas comment le voyage a été préparé, qui a lancé l'initiative, mais le moment ne pouvait pas être choisi moins bien, hein, ça, pour de ce point de vue. Nous n'avons pas de gouvernement valable, nous avons gâché notre présidence de l'Union européenne, les deux parties se disputent plus qu'ils ne gèrent les affaires, la corruption est parmi les plus élevées dans les pays de l'Europe, et on a même finalement pas décidé d'organiser les élections anticipées, puisque l'opposition a fait chuter le gouvernement. Non, mais au dernier moment, à reculer, elle ne veut pas d'élection anticipée. Alors, c'est une pagaille totale. Donc, il n'y a pas de partenaire. Et puis, ceux qui sont là, en tête, le président Klaus en tête, n'ont aucune envie de lâcher quoi que ce soit à l'Église.
Pourtant, on dit que certains députés du Parti chrétien-démocrate avaient levé la main et voté pour ce président de la République parce qu'ils attendaient de lui quelques efforts dans cette direction, en direction de l'Église.
Mais ils se sont trompés deux fois. Ils se sont trompés sur Klaus. Moi, je ne voterai jamais pour cet homme, hein, je le dis ouvertement. Et deuxièmement, sur leur importance comme parti. Ils sont tout juste au-dessus de la barre de 5%, et je me demande est-ce que dans les élections qui vont venir, parce qu'ils se sont encore divisés en deux morceaux, deux partis, est-ce qu'ils seront présentés au Parlement? Ce sera la première fois depuis 1918 qu'ils ne seront pas au Parlement, parce que même pendant la période communiste, il y avait effectivement un parti chrétien de marionnettes, mais enfin, il était au gouvernement. Alors cette fois-ci, si les choses évoluent comme on voit les évoluer actuellement, ils ne seront pas présentés. Ils se sont trompés lourdement. Si c'était un grand parti qui faisait un accord comme ça avec les chefs, peut-être, et je dis bien peut-être, aurait-il quelques moyens de faire pression sur un homme infléchissable. Mais les démocrates chrétiens, ils se sont trompés complètement deux fois.
Alors, pour quitter la politique et revenir à l'aspect plus religieux du voyage, lundi, ce sera la Saint-Venceslas, un jour très important ici. Est-ce que d'être à Stara Boleslav, ça vous paraît être mieux choisi, par exemple, que le Jesulatko, que l'enfant Jésus? Ou plus logique, peut-être?
C'est une coïncidence pour moi, parce que j'ai fait mon service militaire à l'ombre de l'église qu'il va visiter. À l'époque, il y avait un stockage de matériel militaire, et moi j'étais dans une unité de travail, non pas dans l'unité de combat. Donc je faisais mes 2 heures de sentinelle 4 fois par jour à l'ombre de l'église, avec le carillon qui faisait chaque fois, qui réjouissait mon cœur. Saint-Venceslas, c'est curieux, depuis la chute du régime communiste, est devenu une fête nationale. De mon point de vue chrétien, c'est justifié de tous les points de vue. C'est le fondateur de la dynastie de Przemyslite qui a amené ce pays dans l'orchestre des pays européens développés. Il ne faut pas oublier que la Bohème était au Moyen-Âge une puissance moyenne et impériale pendant presque 3 siècles. Donc c'est le début. Puis c'était quelqu'un qui avait pour un prince, parce qu'il n'était pas roi, pour un prince, une formation, une éducation exceptionnelle. Il était encore formé par les prêtres slavons, qui sont venus donc avec Saint-Cyril et Méthode au IXe siècle. Il a vécu au Xe siècle, n'est-ce pas? Donc c'est 9e, 10e, il y en avait, Budec, pas loin de Prague, c'est là qu'il a fait ses écoles. Il a été latin lui-même et germanique, il parlait, écrivait tchèque, latin, slavon, latin et allemand. Hein? C'est déjà ça. Et puis, son geste au départ, qui a été beaucoup vilipendé, mais maintenant les historiens le reconnaissent, un petit état naissant à l'est d'une puissance germanique, que ce soit les Saxons ou que ce soit les Francs, ne peut pas s'affirmer par le combat. D'ailleurs, son frère qui l'a assassiné, les communistes, déjà avant certains anticléricaux, disaient que c'était nécessaire. Boleslav était un vrai roi puissant, etc. Venceslas cédé, mais il s'est fait battre tout de suite, Boleslav, et ce que Venceslas aurait donné sans guerre et sans effusion de sang, il était obligé de le donner après. Nous n'étions pas un grand pays vis-à-vis d'un voisin comme ça. La méthode Venceslas, réconciliation, négociation, aujourd'hui, qui est-ce qui voudrait une guerre pour un conflit? Est-ce que c'était pas vraiment la solution déjà d'avant la date. Hein. Donc, pour moi, ce symbole est bien choisi. Je suis étonné que l'Assemblée nationale, où les chrétiens sont, je sais pas, 5%, aient pu voter cette loi de la fête nationale Saint-Venceslas. Ça, c'est une des belles surprises que j'ai eues ici dans les années 90.
Peter Collard, je vous remercie.
Je vous en prie.